Mes amis, aujourd'hui, 21 décembre, nous fêtons Saint-Pierre Canisius. Saint-Pierre Canisius, ou Pierre Caniche, ou Canis, naquit le 8 mai 1521 à Nimègue, ville des Pays-Bas actuels. Sa mère, Egidia van Oeveningen, décéda peu de temps après sa naissance. Avant d'aller plus loin, nous devons remarquer que le 8 mai 1521, date de la naissance de Pierre Canisius, est aussi le jour où Luther, qui avait été excommunié le 3 janvier 1521, fut mis au ban de l'Empire romain germanique. Mais revenons à notre père Canisius. Fils de Jacob Canis, bourgmestre et riche bourgeois de Nimègue, Pierre eut une jeunesse pieuse. En effet, les idées de Luther commençant à envahir largement l'Europe du Nord, les familles catholiques s'efforçaient de confirmer leur foi en l'Église romaine par un attachement résolu et déterminé. En 1536, âgé de 15 ans, Pierre fut envoyé à Cologne pour étudier le droit et les arts, mais il s'appliqua aussi à la théologie et à la spiritualité. Bientôt, Pierre, pensant qu'il devait devenir prêtre, orienta ses études de théologie vers l'Écriture sainte et les Pères de l'Église. En 1539, il est à l'Université de Louvain et en 1540, il est reçu maître S.A. à Cologne. Pierre Canis était attiré par les chartreux et les mystiques rhénans. Mais dès qu'il eut rencontré Pierre Favre, disciple de saint Ignace de Loyola, il fut subjugué et entra à Mayence dans la toute jeune compagnie de Jésus le 8 mai 1543. Il n'avait que 22 ans. Sous la direction de Pierre Favre, il avait fait les exercices spirituels de saint Ignace durant 30 jours. Avec le soutien des moines chartreux, il fonda ensuite à Cologne la première maison des Jésuites en Allemagne. Reçu diacre en 1544 et ordonné prêtre en 1546, il continua ses travaux d'édition en publiant les traductions des ouvrages de saint Cyrille d'Alexandrie et de saint Léon le Grand. Mais auparavant, avant d'être ordonné prêtre, Pierre Canisius avait commencé à donner des cours publics d'écriture sainte et à se livrer à la prédication. Il n'avait que 24 ans lorsque la confiance des habitants de Cologne l'envoya auprès de l'empereur Charles Quint pour obtenir qu'il les délivrât de leur archevêque infecté de protestantisme. Entre-temps, en 1543, Pierre avait publié sous un pseudonyme une traduction allemande de quelques œuvres du théologien mystique alsacien Jean Toller. Pierre Canisius passera l'essentiel de sa vie de prêtre jésuite en Allemagne et en Suisse à réformer l'Église catholique et à lutter contre les hérésies protestantes. Il traduira les pères de l'Église trop oubliés à l'époque et auxquels Luther ne voulait se référer à aucun prix. Pierre Canis rédigea aussi un catéchisme qui connaîtra un grand succès. Les pères du Concile de Trente, qui dura de 1545 à 1563, feront appel à ses compétences et tout particulièrement le cardinal Otto Truchess von Walburg, évêque d'Augsbourg. Conscient des faiblesses et du laxisme de l'Église catholique, Pierre était convaincu que le renouvellement de l'Église devait passer par la lutte contre l'ignorance du clergé et des fidèles. Aussi, à l'époque où l'imprimerie n'engendrait encore que la méfiance, en usa-t-il abondamment, et il disait « Le progrès doit être mis au service de Dieu ». Comme il avait raison. Saint-Pierre Canisius passa ses dernières années, de 1580 à 1597, à Fribourg, en Suisse, où il avait été envoyé pour fonder un collège. Autant que le permettaient ses forces usées, il poursuivait son action à Fribourg pour réformer l'Église et affermir sa foi. Saint-Pierre Canisius mourut à Fribourg le 21 décembre 1597 à l'âge de 76 ans. Saint-Pierre Canisius fut béatifié en 1864 par Pie IX. Il fut canonisé et proclamé docteur de l'Église en 1925 par Pie XI. Il est fêté le 21 décembre. Nous connaissons maintenant les principales étapes de la vie de Saint-Pierre Canisius. Mais peut-être aimeriez-vous avoir plus de détails sur la vie de ce grand serviteur de Dieu. Alors, revenons un peu en arrière. Nous savons que c'est en 1546 que Pierre Canisius fut ordonné prêtre chez les Jésuites. Il quitta bientôt Cologne pour l'Italie. Puis il fut envoyé au Concile de Trente comme théologien de l'évêque d'Augsbourg. Au printemps 1548, Pierre fut envoyé à Messine, en Sicile, avec un groupe de 10 jésuites pour y fonder le premier collège de cet ordre. Pierre Canisius y enseignait le latin et la rhétorique. Mais en 1549, Ignace de Loyola appela Pierre Canisius à Rome. Le 7 septembre 1549, Pierre Canisius prononça ses vœux solennels à Rome en présence d'Ignace de Loyola. Le pape Paul III, répondant à une demande du duc Guillaume IV de Bavière, l'envoya enseigner à l'université d'Ingolstadt en Bavière, d'où, pendant 30 ans, il put agir au sein du Saint-Empire romain germanique en faveur de l'Église catholique romaine, alors menacée d'une part par sa propre décadence, d'autre part par l'influence grandissante de la réforme protestante soutenue par des princes qui cherchaient ainsi à acquérir une plus grande indépendance politique. À Bologne, Pierre Canisius obtint le grade de docteur en théologie et en 1550, il fut élu recteur de l'université d'Ingolstadt. En 1552, Ignace de Loyola l'envoya au nouveau collège de Vienne. Pierre prêcha aussi à la cathédrale Saint-Antoine de Vienne et à la cour de Ferdinand Ier. Il refusa plusieurs fois l'archevêché de Vienne, malgré les demandes insistantes de Ferdinand auprès du pape Jules III. Durant les années 1555-1556, Pierre Canisius enseigna dans plusieurs collèges de son ordre et fonda ceux d'Ingolstadt, de Prague, d'Augsbourg et de Fribourg en Suisse. En 1555, à la fin du règne de Charles Quint, il participa à la diète d'Augsbourg avec celui qui deviendra l'empereur Ferdinand Ier. Désigné par les princes catholiques et sur ordre du pape, il prit part au débat religieux organisé à Worms. Là, les protestants se divisèrent et durent se retirer en grande partie à cause de Pierre Canisius et de sa foi. En 1556, Ignace le nomma premier provincial des jésuites de la Haute-Allemagne, Souabe, Bavière, Bohême, Hongrie, Haute et Basse-Autriche. Passons maintenant aux œuvres de Saint-Pierre Canisius. Nous avons vu combien Pierre Canisius lutta contre l'ignorance religieuse et contre la dépravation morale qui en était la conséquence. En d'innombrables prédications qu'il préparait la nuit, plus de 12 000 pages de sermons manuscrits sont arrivées jusqu'à nous. Saint-Pierre Canisius exposait la doctrine de l'Église et amenait ses auditeurs à vivre chrétiennement. Il réforma l'université d'Ingolstadt, puis il travailla à la réforme de l'université de Vienne, tombée dans un état de langueur désespérant, d'où le réalisme de Pierre Canisius qui insista sur le problème de l'éducation. Son principal effort fut l'ouverture de nombreux collèges. Ces collèges devaient former une nouvelle génération de chrétiens capables de servir l'Église dans le monde. Les commencements furent laborieux. Cependant, à la mort de Saint-Pierre Canisius, on comptait dans l'Empire 100 établissements dont beaucoup étaient directement ou indirectement l'œuvre de Saint-Pierre Canisius. Pierre Canisius se pencha aussi sur l'organisation de la Compagnie de Jésus dans l'Empire et sur le développement de la vie spirituelle des jésuites. Pendant plus de 13 ans, outre son travail habituel, Saint-Pierre Canisius eut à diriger et à superviser un nombre toujours croissant de jésuites, leur communauté et leurs travaux apostoliques. Enfin, Pierre Canisius eut souvent à conseiller les princes et les évêques, notamment pour tout ce qui avait trait aux questions de la réforme de l'Église. C'est ainsi que Saint-Pierre Canisius eut à intervenir 6 fois comme théologien des légats pontificaux et du roi aux assemblées d'Empire. Sur mandat du pape et pour ses propres supérieurs, Saint-Pierre Canisius rédigea toute une série de mémorandums concernant la réforme de l'Église. Durant l'hiver 1565-1566, il dut commenter les décrets du Concile de Trente aux évêques et aux princes catholiques de l'Empire. On peut résumer ses activités en disant que Saint-Pierre Canisius fut le plus puissant agent de la réforme intérieure de l'Église catholique dans l'Empire. Il contribua fortement à contenir les progrès et la pression de la réforme catholique et à ramener l'Église des régions perdues, surtout dans l'Allemagne méridionale et en Autriche. Pourtant, nous devons ajouter que malgré ses fortes convictions, Saint-Pierre Canisius s'efforçait de comprendre les protestants qui, devant la décadence de certains milieux catholiques, émettaient des jugements qui n'étaient pas tous erronés. Mais pour Pierre, on ne devait jamais nuire à l'unité de l'Église. S'il combattait la réforme, il était plein d'égards pour les réformateurs protestants. Conscient des faiblesses de l'Église catholique romaine de son époque, il était convaincu que le renouvellement de l'Église devait passer par la lutte contre l'ignorance du clergé et des fidèles. Pour la réforme du clergé, Saint-Pierre Canisius employait surtout les exercices de Saint-Ignace. Et nous le savons déjà, l'action de Saint-Pierre Canisius s'exerça via l'imprimerie, principalement pour les trois catéchismes et les divers livres de prière qu'il avait écrits. Après cette énumération très succincte des activités de Saint-Pierre Canisius, notre étonnement ne fera que croître quand nous découvrirons les œuvres écrites de ce saint. Comment pouvait-il faire? Cela, c'est le secret de Dieu. Nous nous contenterons d'énumérer. Pierre Canisius rédigea en 1555 un grand catéchisme qui fut publié en plusieurs langues, notamment en français en 1588. Il rédigea aussi un abrégé de cet ouvrage, le Petit Catéchisme, qui devint très populaire. Il publia en 1556 le Catéchisme pour les gens simples et pour les enfants des écoles. Pour les classes moyennes, Saint-Pierre Canisius composa Parvus Catechismus Catholicorum, que l'on estime être la meilleure œuvre de Pierre Canisius. Les catéchismes de Pierre Canisius lui valurent d'être élevé à la dignité de docteur de l'Église. Quand il fut déchargé de toute supériorité, le père Canisius se retira à Dillingen, où il travailla à la réfutation des erreurs des Saint-Thuris de Magdebourg, histoire de l'Église protestante divisée en périodes de 100 ans, d'où son nom. Cette histoire fut publiée en latin à Bâle de 1559 à 1574. Il alla ensuite fonder le collège de Fribourg en 1580, qu'il ne devait plus quitter. Il recueillit l'histoire des saints du pays et entretint des correspondances avec de multiples personnes. En résumé, l'œuvre littéraire de Pierre Canisius, très importante, connut un succès considérable et durable. Après vous avoir présenté l'essentiel de la religion dans une summa doctrinée, il la résuma dans des catéchismes qui eurent un tel succès que durant 3 siècles, on employa en allemand le mot « canesis » pour désigner un catéchisme. Notons qu'il défendit aussi le culte de la Vierge Marie. Compte tenu de la ressemblance qui existe au niveau de l'Église entre le temps de Saint-Pierre Canisius et le nôtre, prions le Seigneur pour qu'il nous envoie aujourd'hui de nombreux disciples de ce saint.